philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 8 novembre 1990.
Il y a quelques questions auxquelles je vais répondre. L'intelligence est-elle contrainte d'abstraire? C'est un fait. Je constate cela dans le langage comme un signe et dans ma réflexion. Personne ne peut nier qu'il y a dans notre langage le signe de certains mots qui sont plus ou moins abstraits. Blanc, blancheur. Regardez le dictionnaire. Je réfléchis. D'où ça vient? Ça exprime ma pensée. Et je réfléchis sur la philosophie. Je vois que je passe du pratique au spéculatif. Le pratique est beaucoup moins abstrait que le spéculatif. Je m'aperçois les différentes sciences. Il y a des degrés d'abstraction. Alors, pourquoi cette nécessité d'abstraction? Ceci ne peut se préciser qu'en critique. C'est que il y a dans l'homme différentes sources de connaissances. Nos sens externes, nos sens internes, notre imagination et notre intelligence. Tout ça coopère ensemble dans l'expérience. Mais cette coopération fait que l'intelligence liée à l'imaginaire, liée à l'affectif, liée au sens, ne peut pas se développer dans ce qu'elle a de tout à fait original, de tout à fait propre. Ce que Aristote appelle le nous séparé. L'intelligence dans ce qu'elle a de propre. Pour pouvoir Thank you. force première substantielle n'abstrait pas. Et on comprend alors la réaction violente d'un Bergson qui a horreur de l'abstraction. On comprend cette réaction constante qui peut exister dans un peu la philosophie anglo-saxonne qui revient tout le temps à l'expérience pratique. Très peur de l'abstraction. On comprend très bien que c'est le signe d'une intelligence fragile, c'est-à-dire une intelligence qui, de fait, ne cherche son bien qu'en se servant de l'imagination et en se servant des sensations. Donc c'est une intelligence qui n'a pas une autonomie parfaite. Vous voyez, c'est là la très grosse difficulté. Une autonomie parfaite, entendons bien. Autonomie dans la recherche de son bien. C'est-à-dire dans l'ordre de l'exercice. Tout acte d'intelligence impliquera le concours de l'image dans la recherche. L'intelligence aura son autonomie quand elle découvrira l'être. C'est pour ça qu'elle l'aime tant. Tant que vous n'avez pas découvert l'être, vous n'avez pas d'autonomie intellectuelle. C'est très curieux, c'est une expérience merveilleuse à faire, ça. Une expérience intellectuelle interne. Tant que l'intelligence n'a pas découvert l'être, c'est pour ça que saint Thomas répète 175 fois « Primo cadit in intellectus ens ». Primo, dans l'ordre de nature. La première chose que l'intelligence découvre quand elle est elle-même, c'est ce qui est, en tant qu'il est. Là, elle découvre son autonomie. Elle découvre ce qu'elle est. Tant qu'elle n'a pas découvert ça, elle est vagissante dans son berceau. Le berceau de l'intelligence sont nos sensations et quelquefois l'imaginaire, et même souvent l'imaginaire. On passe de l'expérience à l'imaginaire. C'est le berceau supérieur. On croit acquérir son indépendance par l'imaginaire, on ne l'a pas du tout. On est encore plus dépendant. Parce que les sensations des dépendants, moins du réel, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que là, on est dépendant de tout ce qu'on veut. Ou de tout ce qu'on ne veut pas. L'intelligence arrive à redécouvrir son indépendance quand justement elle saisit la réalité en tant qu'elle existe. Et d'où l'importance du jugement d'existence qui me fait comprendre dès le point de départ ce dépassement de l'expérience habituelle qui reste collée aux qualités et que je dépasse le point de vue sensible. Comment comprendre que l'abstraction induction. Ouais. Non. Comment comprendre l'abstraction fruit d'une induction? C'est pas une induction. Fruit d'une induction. Le fruit de l'induction implique nécessairement un passage dans lequel on s'est purifié, puisse être dépassé par la recherche proprement philosophique, qui elle aussi sera inductive. Oui. Autrement dit, comment comprendre ces deux régimes d'induction que je vous avais dit? Ça, c'est très important au point de vue critique. C'est de la critique, tout ça. Comprenez bien, c'est de la critique. On réfléchit sur tout ce qu'on a dit la dernière fois. Ça, c'est très bien, tout ça, mais je voudrais voir un peu plus clair. Vous voyez? Alors, premier type d'induction. Blanc du mur. Blancheur. Regardez le point de départ de cette induction, le Parménide de Platon. C'est intéressant parce que c'est le dialogue critique, le premier dialogue critique de Platon. Quand Platon n'a plus son élan parfait, peut-être à cause du jeune Aristote. Puisqu'il y a le jeune, il y a Aristote qui est là. encore son interrogation, vous voyez. Je crois que ce jeune Aristote qui est là, dès le point de départ, Platon l'a aimé comme quelqu'un qui recherchait la vérité. Il avait 18 ans. Alors, blanc-blancheur, c'est une induction, le multiple, la diversité des expériences. Et qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette diversité? Qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces expériences? C'est la forme. Ce par quoi le blanc est blanc, la blancheur. La forme, la qualité. Donc c'est une induction qui permet de découvrir la forme. C'est pour ça qu'on l'appelle l'abstraction formelle, le fruit de cette induction, le passage de cette diversité à l'unité. Puis, deuxième induction, celle que nous allons voir. Alors, on part de multiples expériences. Formes pour chercher le principe propre de ces formes. Donc ici, le fruit, c'est découvrir un principe qui est cause. Oui, blancheur n'est pas cause de blanc. N'existe que dans l'intelligence. Vous n'avez pas un pot de blancheur. Vous avez de la couleur blanche. Allez acheter la blancheur. Je voudrais avoir un peu de blancheur. Il est un petit peu dingue celui-là. La blancheur. La blancheur, elle est première. Mais elle n'est pas cause. Elle ne peut pas être cause. Parce qu'elle n'est réelle que dans l'intelligence. La blancheur n'existe que dans l'intelligence. Oui. Et c'est bien le dépassement de l'intelligence par rapport aux expériences. Seule une intelligence capable d'être séparée peut comprendre le point de vue de la signification.
Je sais où je m'oriente, ce que je mets en lui.
obsédé par la recherche à cause des interrogations multiples. C'est les interrogations qui commandent l'induction. Toujours. Oui, faites l'analogie avec la recherche scientifique. Qu'est-ce qui commande la recherche scientifique? L'hypothèse. L'interrogation est l'hypothèse à l'état primitif, premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'être? Oui, une hypothèse. Quelqu'un qui n'a pas d'hypothèse ne recherche rien. Quand vous voyez un étudiant qui fait une recherche, un doctorat en sciences, on lui donne une hypothèse de recherche. Recherchez dans ce domaine-là, il doit y avoir quelque chose. L'interrogation, Platon donne l'image du chien de chasse qui est en face d'un buisson. Il sait qu'il y a là un lièvre, un lapin ou une grosse bête. Il est là en arrêt. L'interrogation, c'est l'intelligence qui est en arrêt. Elle a pressenti qu'il y avait quelque chose là. Oui, elle exprime le bien de l'intelligence et l'appétit de l'intelligence qui devance la découverte. Si tu ne m'avais pas déjà découvert, tu ne me chercherais pas. Saint Augustin dit ça pour Dieu. Et c'est vrai de toute vérité. Et on pressent, pressentir. Alors il y a des gens qui ne pressentent rien. Ça c'est vrai. Il leur manque un peu de gingembre. Ils ne pressentent rien du tout. Il faut qu'ils aient le nez dessus pour sentir qu'il y a du fromage. Ils sentent rien. C'est curieux, ça, c'est très très curieux. Il y a des pressentiments affectifs, il y a des pressentiments intellectuels. C'est l'appétit de l'intelligence. Alors évidemment, je crois que le contexte dans lequel on a vécu joue beaucoup ça. Le noviciat vous fait pressentir Dieu. Le Christ, pour que vous le cherchiez. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a un climat particulier. Et quand il n'y a pas de climat particulier de noviciat, c'est très très difficile. On a besoin d'un climat pour éveiller, pressentir. Et l'interrogation, c'est un pressentiment. On devine, il y a quelque chose. Le chien de chasse, il a du flair, ce qu'on dira, avoir le nez creux. Il y a du flair, il y a quelque chose. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais il y a quelque chose. Mais alors, voyez comment l'amour joue là. Parce que l'amour nous fait pressentir. L'amour de la vérité. Donc, voyez, alors, pourquoi ce dépassement? C'est la nature même de l'intelligence qui exige ce dépassement. C'est que l'intelligence ne peut pas se satisfaire de se nourrir des formes. L'intelligence ne peut pas se satisfaire de ça. Elle doit dépasser ça pour saisir la réalité. La réalité dans le devenir. La réalité dans la vie. La réalité dans l'être. Les trois niveaux. Parce que l'intelligence ne peut pas se contenter de rester dans la forme. Tandis que Platon se contente de rester dans la forme, dans les formes en soi. C'est pour ça que, pratiquement, Platon ne saisit que cette induction. Mais c'est intéressant. Et dans le Parménide, donc sous l'action du jeune Aristote, entre nous, le jeune Aristote, on peut dire, c'est Aristote. En dehors d'ici, non, on ne sait pas c'est qui. Soyez intelligent en disant que vous ne savez pas c'est qui. Parce que si vous dites c'est qui, non, pas du tout, vous êtes naïf. Vous avez cru qu'Aristote, vous l'avez projeté là. Alors qu'il dort. Il est tout jeune novice, comment il ne peut pas se placer. Mais comme Platon l'aime, il met tout de suite dans son dialogue. C'est tellement normal ça. Dernier petit novice, intelligent. Alors on le fourre là tout de suite. Oui, c'est pour ça que la philosophie n'est pas étrangère à la vie de l'intelligence. C'est pas artificiel. C'est la vie de l'intelligence. Je sais que certains sont furieux quand on dit ça, mais c'est pourtant ça. C'est la vie de l'intelligence. Et la métaphysique, c'est l'intelligence à l'état pur. C'est pareil. Et tant qu'on n'a pas saisi ça, mais oui, je crois qu'on a une intelligence de cheval de la cour. Alors, c'est très très bien, mais c'est un peu lourd. Y a-t-il alors deux types différents d'induction ? L'une montrant la faiblesse de l'intelligence, l'autre étant au contraire sa force. Toutes les deux montrent l'appétit de l'intelligence. Toutes les deux montrent la fragilité de l'intelligence et la précarité de l'intelligence. Toutes les deux. Puisque toutes les deux abandonnent pour s'envoler, pour pénétrer avantage. Vous voyez, si l'intelligence est in douce, on désire l'égérer dans une intériorité toujours plus grande. L'intelligence veut lire, saisir toujours plus profond. Alors, première chose, la forme. Deuxièmement, les principes, la nature, l'âme, la substance. Elle pénètre toujours plus. Elle va toujours plus loin. Mais c'est divers. Chaque fois, c'est le retour à l'expérience. Je n'induis pas à partir d'une expérience. Vous voyez, il y a seulement, avant cela, avant cette induction formelle, il y a le fait d'expérimenter la forme. Les formes diverses, ou la forme. La forme dans des réalités diverses. Et alors, il y a le passage de l'individu ou l'individuel, le concret, à ce que représente la première forme d'abstraction qui est le genre. Je découvre animal. Mais le plus familier, animal, puisque je le porte toujours en moi, ce pauvre vieil âne, cette pauvre vieille vache, ce pauvre petit mouton. Vous voyez, animal, je vois tous ces individus, je dis animal. Donc vous voyez, il y a déjà là une induction très souterraine qui passe de du singulier à l'universel. Abstraction universelle, dont je n'ai pas conscience. Mais quand l'intelligence saisit animal, ce n'est pas l'intelligence séparée. C'est une intelligence conditionnée. Tandis que l'abstraction formelle libère l'intelligence. Vous voyez, c'est une sorte de généralisation. C'est une intelligence au niveau de la parole, au niveau des mots. Je passe du troc au commerce, à l'argent. Et c'est l'exemple que donne Aristote. N'est-ce pas ? La première forme du commerce, c'est d'arriver au marché avec les derniers petits moutons. Et puis, on désire acheter autre chose. On désire acheter un tissu. Alors, on va évaluer ce mouton, ce tissu. Ça se voit à peu près. Alors, si vous voulez, troc, on échange. la médiation de l'argent au tissu. Et on peut avoir une évaluation bien plus parfaite. Tant d'heures de travail pour le tissu, tant d'heures de travail pour le bouton. Toute la matière nécessaire pour le tissu, toute la matière nécessaire pour le mouton. Le capital investi pour le tissu, le capital investi pour le mouton. Égal à peu près. Oui. Et alors, c'est très intéressant les spéculations sur l'argent. Parce que c'est toujours ce point de vue-là qu'on cherche. C'est l'universel, oui. Une mesure. Une mesure qui permet de dépasser la diversité matérielle et sensible pour avoir une cause exemplaire. L'argent est toujours un peu cause exemplaire. Et c'est l'analogue de l'universel générique. Qui permet le classement. Quand je dis animal, je peux classer tous les veaux de bérette, veaux, vaches, cochons. Tout ça, c'est de l'animal. Oui, ça va beaucoup plus vite. On a classé. Cause exemplaire, on l'a fait rentrer dedans. Oui, c'est assez proche de la forme. Mais c'est pas la même chose. C'est un classement. On a laissé tomber toutes les notes individuelles pour prendre quelque chose d'universel. C'est l'universel. Et l'universel est ce qui commande toute la logique. C'est un être de raison. Ça n'existe que dans mon intelligence. Et c'est la première forme d'induction. Oui, souterraine. Elle est souterraine. Je fais aucune attention à celle-là. Celle-là, j'en ai conscience. C'est pour ça qu'on parlera abstraction universelle, abstraction formelle. Mais c'est toujours l'intelligence qui a besoin de ramener la diversité à l'unité. Alors, je crois que, voyez, si on voulait préciser, on dirait que cette induction, c'est le passage du multiple à l'unité, l'universel. L'universel, c'est l'unité. Tandis que, ici, c'est le passage du divers à la forme première. C'est pas la même chose, le premier est l'un et l'unité. L'unité est une propriété de ce qui est premier. C'est une propriété. Tandis que ce qui est premier, c'est la forme, l'acuité. On va voir ce que c'est. La forme, acuité, ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, ou dans l'ordre du devenir, ou dans l'ordre de la vie. Principe. Mais c'est le premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Je crois que dans cette induction, c'est du multiple à l'unité. C'est l'induction fondamentale. La saisie du genre. Oui, les cinq prédicables de 600. Les cinq modalités d'universel, le genre, la différence spécifique, l'espèce, la propriété et l'accident. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que si vous vous mettez à raisonner pourquoi cinq modalités d'universel, c'est parce que vous avez cinq sens. Alors vous retrouvez les cinq modalités par où ? J'atteins le divers, le multiple, et je tends vers l'un. Le genre, tout universel, c'est l'unité. Donc vous avez une induction fondamentale, une induction première les inductions diverses des différents degrés de science. Des différents degrés de partie de la philosophie. Y a-t-il deux types différents d'inductions, l'une montrant la faiblesse de l'intelligence? Alors je dirais, celle-là montre la faiblesse de l'intelligence, ça oui. L'induction qui conduit à l'universel. Parce que mon intelligence n'est pas intuitive, je suis obligé de classer. Classer. Fichier, matière, on classe. C'est très pauvre. On ordonne par le classement. Tandis que là, on ordonne l'organisation profonde. C'est déjà très différent. L'arc veux savoir, je veux aller plus loin. C'est pour ça que j'interroge. Celui qui interroge est celui qui n'est pas satisfait de la réponse qu'on a donnée. D'où il interroge. Il a compris quelque chose, et puis il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Expliquez un peu. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, je mets en pleine lumière l'être qui était confondu dans le jugement d'existence. Ceci est. Comme ceci est égal aussi bien la vache que l'homme, l'être de la vache, l'être de l'homme n'est pas le même. L'être à la vache, l'être à l'homme, l'être à Pierre, l'être à Blanchette, la vache, eh bien, n'est pas le même. Celui de Pierre et celui de Blanchette, c'est pas la même. Alors, je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être pris pour lui-même ? Je le sépare de tout ce qu'il contamine, la vache, l'homme. Je ne sais si, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'intelligence veut pénétrer plus avant. Donc l'interrogation, c'est toujours l'intelligence qui devance. Ça, je dis, c'est l'appétit de l'intelligence. Un appétit de vérité qui va aller plus loin. On commence à interroger quand on désire découvrir. Quand on a un désir d'aller plus loin. Quand on ne connaît rien du tout, on n'interroge pas. Tabula rasa. Oh, c'est une table. Pourquoi interroger ? C'est une table. Mais vous vous interrogez pourquoi ? Quand vous voulez l'acheter. Ah ! Vous voyez, vous avez un amour d'avoir cette table. Cette table, elle est faite en quoi ? Tandis que si vous ne voulez pas l'acheter, vous dites, oui, elle est belle, oui, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est assez caractéristique, cette table, c'est pas si mal. J'en ai déjà vu comme ça. Puis vous restez sans interroger. Tandis que dès que vous commencez à vous intéresser à cette table, vous commencez à l'aimer pour la mettre dans votre poche. Alors vous commencez à l'aimer. Et là vous vous posez, en quoi est-elle faite ? En quoi est-elle faite ? Quel style ? Ce style de cette table, assez difficile à découvrir. C'est assez commun. C'est pour l'usage. Mais si elle était trop belle, vous ne pourrez pas en user. Tandis que là, simple, ça tient. À peu près. Bon, ça va. Voyez, je pourrais m'appuyer quand je suis fatigué, pour m'appuyer dessus. Et... Alors, je me pose la question, en quoi elle existe, voyez ? Et je me pose la question, quand j'ai un intérêt à la table, si j'ai pas d'intérêt, je pose pas la question. On en a vu tellement. Vous passez sans interroger. Dès qu'il y a quelque chose qui vous arrête, c'est pour ça que l'interrogation exprime l'appétit de l'intelligence. Un appétit en acte. L'intelligence qui veut aller plus loin et qui désire aller plus loin. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'interrogation. Et l'interrogation va m'obliger de revenir à l'expérience dans une lumière particulière.